Le dessin m'a toujours accompagné, c'est un moyen d'évasion.
Le 21 mars 2025, Lomig est venu parler de sa dernière bande dessinée, Au cœur des solitudes, à la médiathèque de Bressuire. Une cinquantaine de personnes avaient fait le déplacement pour venir à sa rencontre. L'auteur et illustrateur a expliqué son travail. Il a ensuite dédicacé son dernier album, Au cœur des solitudes, dont quelques planches sont exposées dans le hall d'accueil de la médiathèque. Lomig à la médiathèque de Bressuire. Un reportage signé Explore le Mag. À la prise de son et au mixage, Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.
Bonjour, je suis Lomig, bienvenue sur Explore le Mag. Je suis auteur de bandes dessinées depuis 10 ans à peu près. Donc voilà, j'ai fait 5 bandes dessinées, les 3 dernières aux éditions Sarbacane. Voilà, moi j'ai un peu un parcours atypique parce que je n'étais pas spécialement un lecteur de bandes dessinées quand j'étais enfant. Mais le dessin m'a toujours accompagné, c'est un moyen d'évasion. Moi je faisais des petits dessins, puis je m'envolais un petit peu dans mon esprit, et puis je me racontais des histoires. Et ça m'a toujours accompagné, quoi, très longtemps. Mais finalement, la bande dessinée, c'était venu à moi beaucoup plus tard. C'est des copains, un copain à moi qui m'a dit que un fanzine recherchait des dessinateurs. Et du coup, j'étais mis en relation avec des gens qui étaient un peu passionnés par ce média. Et c'est eux qui m'ont un peu initié à la bande dessinée, quoi. Et en plus, ils m'ont fait découvrir toute une facette de la BD que je connaissais pas. Donc moi, je connaissais la BD de divertissement, Tintin, Astérix, tout ça, mais là, j'ai découvert qu'il y avait aussi toute une facette de la bande dessinée qui était la BD sociétale, les romans graphiques, tout ça, et voilà, ça a commencé à me passionner, et puis voilà, tout a démarré comme ça. J'avais un autre métier avant, en fait, je travaillais dans le réaménagement intérieur, donc j'étais un peu assimilé architecte d'intérieur, donc je recréais des espaces chez les gens, et ça n'avait vraiment rien à voir du coup avec la bande dessinée, donc ça s'est développé vraiment en parallèle, je veux dire, de cette activité, et puis ça finit par la remplacer, hein, quelque part, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de quitter complètement cet emploi pour me lancer pleinement, en fait, dans la bande dessinée. Je pense qu'il y avait un moment un petit peu de rupture dans mon travail où je me sentais vraiment plus bien. Il y avait vraiment des choses qui me manquaient, des choses que je comprenais pas. J'avais l'impression de m'être un peu transformé aussi comme un homme robot, en fait, dans le monde du travail, les conditions. Et la BD, ça m'a servi au départ comme un exutoire. Donc mes BD au début étaient vraiment sur le monde du travail. Ça me permettait de vraiment ce ressenti profond que j'avais de l'exprimer. Et ça m'a fait un bien monstre. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas, j'avais envie de faire d'autres bandes dessinées, mais je pouvais difficilement conjuguer les deux activités parce que ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps. C'était un travail qui était très chronophage, donc j'avais peu de temps pour la bande dessinée. Et donc, du coup, j'ai décidé de quitter complètement mon emploi pour me centrer pleinement sur la bande dessinée, quoi. Donc, c'était pas forcément très, un choix de raison, puisque voilà, je quittais un métier où je gagnais bien ma vie pour aller dans un métier un peu précaire parce que j'avais aucun réseau au départ, mais j'ai jamais regretté, quoi. J'ai retrouvé le plaisir de me lever le matin pour dessiner, et voilà, et petit à petit ça a pris de plus en plus de place, et puis les albums ont été plus reconnus, ça m'a permis de retrouver plus de sérénité aussi financière pour faire ce travail avec le temps. Pour mon premier album, je travaillais essentiellement le soir en rentrant. Donc je rentrais assez tard, souvent vers 20h, un truc à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et donc je mangeais, puis je me mettais à travailler jusqu'à minuit à peu près tous les soirs et les week-ends, quoi, en fait. Donc ça m'a pris, si je dis pas de bêtises, à peu près 5 ans pour venir au bout de ce projet. Il s'appelait Vacadab. Donc Vacadab, en fait, c'est un mot qui veut rien dire. C'est des initiales qui veulent dire vendeur d'aspirateurs chinois à domicile avec argumentaire béton. Avec un petit sous-titre, bienvenue dans le système. Je savais même pas si j'allais être édité, parce que tout le long, j'avais même pas d'éditeur, et donc c'était vraiment comme un challenge personnel, quoi. Essayer de faire un livre, me convaincre que j'étais capable d'aller au bout d'un projet. Et ce projet, j'ai réussi à aller au bout, j'ai réussi à trouver un éditeur, et finalement, il a été très bien accueilli par la presse, tout ça, le retour critique était très, très bon. Commercial, pas immensément, parce que j'étais chez un tout petit éditeur, mais malgré tout, c'était hyper encourageant. Et moi, j'ai apprécié découvrir cet univers de la bande dessinée, rencontrer les autres auteurs aussi, et des super retours aussi de lecteurs, et ça m'a vraiment donné envie de poursuivre l'aventure et de me lancer à plein temps. Donc c'était pas forcément une décision, comme je disais, très, très sage, mais c'était une envie du cœur, quoi, en fait. Et donc j'ai décidé de tenter ma chance, et je me disais que si jamais j'y arrivais pas, il serait toujours temps de faire machine arrière. Mais une fois que j'ai mis les pieds dedans, bah, il fallait que ça marche parce que j'avais pas du tout envie de retourner à mon précédent métier, quoi. Mes trois premiers albums, donc il y a Vacadab, Magic Dreambox et Le Cafodil, les trois sont assez, parlent du monde du travail. Et donc c'était des albums un petit peu, vous savez, un peu humoristiques, mais un humour un peu noir, un peu grinçant, avec des personnages un peu dans la caricature. Et au bout de ces trois albums, je me suis dit, ouais, voilà, je commençais peut-être à tourner en rond, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence à raconter autre chose. Et là, j'ai rencontré mon éditeur, donc Frédéric Lavabre, pour discuter de la suite. Et il m'a demandé, bah, qu'est-ce que t'envisages maintenant? Et je lui ai dit que moi, j'avais vraiment envie de dessiner la nature. C'est pas par hasard, hein, c'est que mes parents avaient une maison près d'une petite forêt dans le Finistère Sud. Puis il y a une petite rivière qui coulait là. Et je passais tout mon temps, en fait, à faire des cabanes quand j'étais enfant, à faire des radeaux pour descendre la rivière, tout ça. C'était un peu mon lieu refuge, quoi. Et je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de m'oxygéner, sortir un peu de la ville, parce que mes premières BD étaient très urbaines, pour dessiner la nature, quoi. C'est ma vraie volonté. Et là, très vite après, il a lu le roman de Gene Eglan dans la forêt. Et il a tout de suite pensé à moi, quoi. Donc il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu serais intéressé par une adaptation graphique? Moi, je lui ai dit, bah, écoute, déjà, si t'as un bon roman à me conseiller, parce que je suis plus lecteur à la base, moi, de romans, donc, je lui ai dit, si t'as un bon roman à me conseiller, ben, je veux bien le lire, déjà, quoi. Et là, j'ai adoré. J'ai vraiment, mais tellement adoré que ça m'a vachement intimidé. Pour travailler sur ce projet, je savais que c'était un best-seller un peu partout dans le monde, donc il y avait vraiment quelque chose d'impressionnant pour moi. J'avais du mal à m'autoriser ce travail, mais l'éditeur il m'a dit de ne pas lui répondre non tout de suite, de prendre le temps de réfléchir, et je me suis laissé convaincre, quoi. Et j'ai vraiment bien fait, parce que c'est vraiment le livre qui m'a complètement permis de donner une visibilité à mon travail, quoi. Il y a eu vraiment un accueil très, très incroyable. Et en plus, ça a été une grande chance pour moi de rencontrer Gene Eglan aussi, qui est devenue une amie maintenant, l'autrice californienne dans la forêt. Donc, super belle aventure. Mais ce projet m'a invité aussi à reconsidérer ma façon de travailler, parce que je pouvais plus faire des personnages un peu dans la caricature, puisque là, on était en une BD qui était très premier degré, quoi. Donc, j'ai dû vraiment essayer d'avoir un dessin un peu plus réaliste. Maintenant, c'est vraiment un style, ouais, semi-réaliste. Et aussi changer d'outil, parce qu'il fallait que j'arrive à rendre mon dessin assez chaleureux, donc le travail que je faisais avant au feutre n'était pas trop adapté. Donc là, j'ai commencé à dessiner plutôt au crayon à papier, quoi. Donc depuis, je dessine au crayon à papier, donc c'est vraiment que des nuances de gris, tout en nuances, comme ça, en texture. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très, ouais, très chaleureux pour dessiner en fait de la nature telle que je veux la représenter, quoi. Alors l'histoire de Dans la forêt, il y a eu une énorme panne d'électricité en fait aux États-Unis, et très rapidement, bah, il y a plus à manger dans les grandes surfaces, il y a plus non plus d'essence dans les stations-service, et les gens vivent reclus chez eux en attendant que ça reparte, quoi, en fait, quoi. Donc on se retrouve un peu dans la même situation que dans la période du confinement. Sauf que là, pour le coup, ça redémarre pas. Et on va suivre deux sœurs qui ont 17 et 18 ans et qui se retrouvent à vivre dans une petite maison en plein milieu des grandes forêts de Californie du Nord. Et du coup, elles vont devoir apprendre à recollaborer avec cette nature pour survivre, tout simplement. Donc c'est vraiment un livre sur la résilience, sur la capacité à se réinventer quoi qu'il arrive, et un véritable hymne à la nature, quoi. C'est vraiment une lecture qui m'a... Enfin, le roman, hein, je parle du roman, qui m'a vraiment, vraiment touché, quoi. Je pense que c'est le genre d'histoire qu'on n'oublie pas, parce qu'elle rentre vraiment en résonance avec tout plein de questionnements qu'on a à l'heure actuelle, quoi, en fait, hein. Chez Sarbacane, on est assez libre, et même il nous invite, au contraire, même à essayer de vraiment donner notre propre vision du texte. Son travail au départ, ça a été de me mettre en confiance pour que je puisse m'autoriser d'apporter ma propre version. C'est ce qui est intéressant dans l'adaptation, hein, c'est d'avoir, ça passe par le prisme à notre regard, donc il faut vraiment retravailler le texte, savoir ce qu'on garde, ce qu'on coupe, comment on raconte les choses, sur quoi on se centralise. Et moi, très vite, j'ai eu l'idée, en fait, de dessiner la forêt comme un personnage. Donc, au départ de cette histoire, elle est représentée un peu comme un décor de théâtre, parce que les deux sœurs sont dans une situation un peu de déni et connaissent pas bien l'environnement qui est autour d'elles, en fait, quoi. Et petit à petit, elles vont en avoir peur. Donc là, j'ai commencé à dessiner la forêt comme un, vous savez, avec des branches tortueuses, où on peut avoir l'impression qu'il y a des dangers potentiels qui se cachent un peu partout, pour la rendre le plus menaçante possible, quoi. Jusqu'au moment de bascule où finalement, bah, ça va devenir la mère nourricière, quoi. Parce que effectivement, elles vont se rendre compte, les deux sœurs, que bah, c'est cette nature qui les nourrit, c'est elle qui les soigne, c'est elle qui les protège, c'est elle qui les apaise aussi. Donc voilà, j'avais besoin de représenter ça dans cette nature, mais encore une fois, c'est pas la nature qui s'est transformée, c'est le regard des deux sœurs qui a évolué tout au long de l'album, en fait. Donc ça a été vraiment ma ligne motrice, en fait, pour créer ce livre. et me centrer aussi sur le sentiment, quoi, l'acceptation qu'elle doit faire de ne pas pouvoir vivre la vie qu'elle s'imaginait pouvoir vivre avant de se retrouver dans cette situation privée d'électricité en plein milieu d'une grande forêt de Californie du Nord. Au départ, c'est même pas qu'elles en ont peur, c'est plus qu'elles ne font pas attention. Comme souvent, si on va se promener, puis on est sur notre téléphone, on pense à autre chose, finalement, c'est un décor qu'on ne connaît pas. Et puis d'ailleurs, pour tout ce qu'elle peut nous apporter en termes de nourriture, etc., on n'a pas grande utilité, puisque c'est plus simple d'aller faire nos courses dans les grandes surfaces. Donc c'est quelque chose qu'elles n'ont pas appris à connaître, même si c'était un environnement qui était très proche. C'était le décor de leur vie, mais sans qu'elles connaissent ce décor. Et à travers cette situation, effectivement, elles vont devoir vraiment apprendre à la découvrir. Et ça va être quelque chose qui va être très profitable, je pense. Et très vite après, après avoir fait ce livre, j'ai eu envie de continuer dans cette veine-là, de toujours raconter des gens qui étaient vraiment en connexion avec la nature. Et j'ai lu beaucoup de textes pour m'inspirer, des textes de Aldo Léopold, Théodore Monod, Élisée Reclus. En travers les lignes, j'ai envie de dire, c'était que le sentiment se retrouvait quand ils étaient seuls en pleine nature, quoi. Donc j'avais vraiment envie de raconter quelqu'un comme ça qui retrouve une forme de connexion, reconnexion à la nature. Et je suis tombé un peu bêtement sur la fiche Wikipédia de John Muir, que je connaissais absolument pas et qui a commencé à me passionner, et du coup c'est devenu au cœur des solitudes, ma dernière bande dessinée, donc qui est inspirée de la vie de ce monsieur, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des premiers, si ce n'est le tout premier écologiste moderne, et qui a vécu du coup entre 1838 et 1914. Pour Au cœur des solitudes, il y a un gros travail de recherche. Moi, j'ai découvert un petit peu sa vie, comme je disais, sur la fiche Wikipédia, mais après, il a fallu que j'ai tout de suite eu envie plutôt d'acheter tous ses livres pour comprendre un peu mieux ce personnage. J'étais tout de suite charmé par sa poésie, quoi. John Muir, c'est une personne qui arrive à faire respirer la terre à travers ses mots, quoi. En fait, il y a beaucoup de poésie, comme cette capacité à s'émerveiller et à transmettre qui est vraiment bouleversante. Dans ces textes-là, ce que je peux préciser aussi, c'est qu'il parlait très peu de lui-même. Il y a beaucoup de pudeur chez ce monsieur, beaucoup d'humilité. Et donc, pour moi, avoir accès un peu plus à son intime, j'ai dû traduire toute sa correspondance, parce que j'ai pu accéder un peu à ses archives, en ligne. Il écrivait à sa femme, à ses amis, aux membres de sa famille. J'ai vraiment traduit, comme ça, je pouvais plus connaître le personnage. Et puis j'ai eu la chance aussi de faire un voyage d'un mois en Californie sur ses traces, grâce notamment à Gene Glan, qui m'a invité là-bas pendant un mois. C'était un super voyage. J'ai réussi à le financer grâce à une bourse auprès de l'Institut français et puis de Rennes Métropole, en faisant des interventions dans les grandes universités américaines. Et tout le reste de mon temps, je le passais dans les grands espaces naturels américains pour essayer de ressentir un petit peu comment John Muir pouvait se ressentir face à ces forêts immenses, quoi, ces panoramas de fou, quoi. Et aussi découvrir les grands arbres que j'avais dessinés, tous les paysages que j'avais déjà dessinés dans la forêt, j'ai pu les voir en vrai, donc ça c'était hyper fort. J'ai pu aussi accéder aux archives, là cette fois-ci en direct, donc tenir ces carnets de voyage authentiques entre mes mains, donc des carnets qui ont 150 ans. J'ai pu aussi découvrir son musée, vraiment son lieu de vie, Et forcément, la grande vallée de Yosemite où il a eu vraiment cet instant de grâce, cet instant de reconnexion à la nature. Il faut savoir que John Muir, c'est quand même lui qui a la source de la création du parc Yosemite en Californie. Donc c'est vraiment l'endroit où il a passé la grande partie de sa vie. Et du coup, c'était vraiment bouleversant de pouvoir voir ça aussi, les endroits où il s'était assis pour dessiner, parce que c'est quelqu'un qui dessinait aussi. Et donc tout ça, j'ai pu l'observer et me laisser imprégner par tout ça sur place, quoi. Tout ça, ça nourrit mon dessin. Mais après, vous savez que la Californie, c'est que la fin de son voyage. Avant ça, il a fait 1500 km à pied à travers l'Amérique, mais plutôt sur la côte Est. Et là, j'y suis pas allé, donc c'était plutôt un travail de recherche iconographique, donc sur internet, d'essayer de récolter beaucoup d'images avec les plantes qui poussaient dans tel état, les animaux qui y vivaient aussi, et puis plein de paysages, de façon qu'à chaque fois qu'il franchissait un état, j'ouvrais un dossier, je regardais les images, comme ça je me faisais une session un peu diaporama. Comme ça, j'arrivais à intégrer les images dans mon esprit pour être en capacité après à les dessiner, quoi. Donc j'ai dû collecter, je sais pas, peut-être, j'ose même pas imaginer, mais entre 5 000 à 10 000 images peut-être. Et tout ça, effectivement, c'était essentiel pour que je puisse vraiment ressentir les états, quoi. Parce que quand il traverse les forêts du chêne du Kentucky, ou quand il monte sur les montagnes de Géorgie, ou dans les marais de Floride, bah, ça, les décors n'ont rien à voir, quoi. Donc ça crée toute la beauté en fait de ce voyage incroyable, quoi. Parce qu'il va traverser en plus tous ces espaces sauvages, mais à pied et en évitant bah, toutes les villes, quoi. Donc c'est vraiment un voyage un peu de fou, en sachant que bah, voilà, il y a des animaux sauvages partout, donc il y a des dangers potentiels à ce niveau-là, mais aussi des dangers avec les hommes, parce qu'on est juste après la guerre de sécession, donc il y avait beaucoup de pauvreté et beaucoup forcément de brigands, de grands chemins, tout ça, donc il y avait beaucoup de menaces pour lui. Donc je ne sais pas comment il a pu faire ce voyage sans plus d'encombre. Et John Muir était pris un peu pour un marginal, parce que finalement à cette époque-là, personne ne pensait à protéger finalement l'environnement, parce que les espaces étaient tellement vastes, l'électricité n'était pas là, donc le développement à venir n'était pas encore tout à fait installé, et les gens du coup voyaient surtout la nature comme une menace ou alors comme une source de profit à exploiter pour toujours faire reculer plus davantage la sauvagerie. Donc finalement le contact avec les gens était un peu pas simple, parce que personne ne le comprenait trop. Mais ce qui est cool, c'est qu'il, lui, il arrivait à communiquer un peu avec tout le monde. C'est-à-dire que c'était pas un donneur de leçons. Donc je pense que peu importe s'il rencontrait des anciens esclaves, s'il rencontrait des propriétaires d'une riche plantation de coton, il arrivait à discuter avec tout le monde et se rendre sympathique. Tous ces temps de rencontres qui étaient peu développé hein, non plus dans ses carnets de voyage, et ben moi ça m'a permis de les romancer. Donc c'est une histoire qui est inspirée d'eux, hein, c'est pas une biographie. Et donc ça m'a permis de traduire un petit peu cette Amérique de la fin du 19e, mais aussi de raconter John Muir à travers le regard de tous les gens qu'il pouvait rencontrer en chemin, quoi. Donc ça, c'est l'histoire, c'est un peu créé comme ça. Décidé en fait de raconter ce premier voyage de John Muir, parce que ça me semblait vraiment le meilleur axe pour raconter le personnage, puisque au tout départ de cette histoire, et ben il est dans le noir parce qu'il subit un accident très grave qui va lui priver en fait de la vue pendant un certain temps. Il pense même qu'il va rester définitivement aveugle, et il a que 28 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a une prise de conscience et qu'il va se dire qu'il est temps de faire vraiment le voyage de ses rêves en fait, quoi. Et quand il va guérir, de façon presque miraculeuse, hein, il va recouvrir la vue totale d'un œil et partielle de l'autre, c'est là qu'il va décider d'entreprendre ce voyage de ses rêves et qu'il va commencer à traverser en fait l'Amérique. Et qui va avoir cette prise de conscience complètement incroyable et qui va complètement changer sa vie, puisqu'il ne retournera plus jamais travailler à l'usine et qui va décider de se consacrer pleinement à sensibiliser ses contemporains à l'idée de créer des espaces naturels protégés, quoi. Et à la fin de ce voyage, du coup, il y a cette fameuse prise de conscience où on a le sentiment que non seulement, il a recouvré la vue, mais il voit au-delà de ses yeux, quoi. Il voit vraiment avec le cœur, quoi. Et c'est vraiment cet axe-là qui, pour moi, permettait de vraiment bien raconter le personnage, la transformation du personnage, et d'inviter le lecteur aussi à vivre cette expérience avec John Muir, quoi, en fait, quoi. Ce temps de reconnexion profonde à notre environnement, quoi. Et je pense que c'est sûrement l'enjeu majeur de nos générations aujourd'hui, c'est de faire évoluer notre regard de la nature, prendre le temps de la regarder. Et je pense que si on change notre regard sur la nature, si on prend le temps de la décoder, de l'aimer, ben on a envie de la protéger comme notre propre famille, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment, il y a vraiment à faire. Et je pense que John Muir peut vraiment nous inspirer aussi à faire ce changement nécessaire pour vivre de façon plus harmonieuse, tout simplement. On met beaucoup de soi dans un album. Les albums, c'est toujours c'est toujours axé sur le vivant. Au début, c'était les gens. Maintenant, c'est un peu plus largement la nature. Mais pour moi, il y a une forme de continuité. Et c'est toujours des sujets un peu de cœur qui sont vraiment importants pour moi. J'ai l'impression que ça m'accompagne. J'ai toujours l'impression un peu de m'attaquer à une montagne un peu au départ, vous voyez. Et parce que le sujet me paraît un peu grand en fait pour moi, mais finalement je m'y attelle et je pense que j'apprends plein de choses en travaillant sur ce texte, et je me rends compte qu'après il y a une forme de continuité, c'est-à-dire qu'un projet amène toujours l'autre. Je me rends pas compte toujours en le faisant, mais après avec un peu de recul, je me dis mais oui, évidemment, c'est comme des livres qui m'accompagnent. La prochaine étape, je pense que ce sera encore la nature. En tout cas, je travaille dans ce sens. Je suis en train d'écrire un scénario, ça prend un peu de temps parce que il y a une promotion qui est assez importante à chaque fois pour les albums, donc des fois ça me laisse peu de temps pour me remettre en fait à écrire. C'est très important de rencontrer les gens. En fait, moi je fais pas ce métier juste pour travailler tout seul chez moi et faire mes petits dessins. Le truc le plus important, c'est le partage. Et donc on fait le livre pour partager une histoire. Et après, rencontrer le public, bah, ça permet de voir les gens en direct aussi, ça permet d'avoir des retours, et ça permet de parler d'une question de fond ensemble, d'expliquer aussi bah, c'est quoi ce travail-là, c'est quoi les étapes pour faire une bande dessinée. Quoi, parce que forcément, quand on lit une bande dessinée, on la lit très vite, on n'imagine pas qu'il faut peut-être 3-4 ans un auteur pour travailler sur un projet comme ça, donc c'est pas rien. Et moi, quand j'ai fait une histoire, je peux pas la lâcher tout de suite. J'ai besoin de l'accompagner aussi un peu sur le temps comme ça pour essayer de bien la faire vivre. Et du coup, voilà, je me nourris aussi de tous ces moments d'échange pour, voilà, pour recharger les batteries, pour m'attaquer à un autre projet ensuite, quoi. Donc, c'est des moments très importants et qui font vraiment beaucoup de bien et que, voilà, que j'apprécie. Là, j'ai commencé à écrire une nouvelle histoire et donc ça devrait se passer aussi toujours dans la nature, toujours aux États-Unis, mais peut-être encore plus dans le passé. Voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant, c'est en cours d'écriture. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur mon travail, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver mon actualité bah, sur les réseaux, j'ai un blog et puis je suis aussi sur Facebook et Instagram, un peu comme tous les auteurs de BD.
C'était l'OMIG à la médiathèque de Bressuire, un reportage signé Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.